Nous allons donc partager la parole de Dieu. J'ai donné comme titre à ma prédication « Votre soif de Dieu est-elle vraie ?» Voilà, c'est une question sérieuse, ce n'est pas une question piège. Je la répète, « Votre soif de Dieu est-elle vraie ?» Dans le psaume 107, au verset 9, il nous est dit ce que Dieu peut faire. Psaume 107, verset 9, ça sera la conclusion certainement tout à l'heure. « Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. » Retenez bien ce que Dieu veut faire, ce qu'il peut faire. Lui, il peut le faire. « Il satisfait l'âme altérée, il comble l'âme affamée. » Un petit peu en avant, il y a une prière de David qui a besoin de retrouver cette soif dans le psaume 42. Dans le psaume 42, David soupire après Dieu. Il passe un moment difficile, il se souvient de certaines choses, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la prédication, mais il veut retrouver cette soif. Psaume 42, verset 2. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion du cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête, il est en train de se rappeler. Dans la version Darby, je le lisais hier soir, il est écrit « Je me souvenais de ces choses. » Je me souvenais de ces choses, donc ce qui vient des bénédictions dans la maison de Dieu, et je répandais mon âme au-dedans de moi. Il est en train de se souvenir ce qui se passait quand il avait soif de Dieu. En vérité, c'est ça qui est écrit. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus s'adresse à une église, la dernière, qui correspond certainement à l'église apostate de la fin des temps. Voilà, c'est la dernière fois que Dieu s'adresse à une église, c'est l'église de la Odyssée. Nous allons le dire, il y a des personnes peut-être qui découvrent l'évangile, peut-être vous revenez à Dieu et vous avez besoin de faire avec moi la lecture entière de cette lettre à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Ne faites pas comme quelqu'un qui m'a dit un jour, mais c'était pour l'église de Laodicée, c'est pas pour nous. Si ça avait été que pour l'église de Laodicée, ça serait pas dans la Bible. Si c'est dans la Bible, c'est pour tous les chrétiens. Croyez-moi, ça c'est vraiment du mépris que d'avoir pensé ça. Apocalypse 3, 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, c'est Jésus qui parle, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et tout le monde devrait dire « Amen ». Alors je commence par le titre « Votre soif de Dieu est-elle vraie ?» Ce sont des questions très sérieuses, je n'ai pas du tout l'intention de gêner qui que ce soit. Nous avons affaire chacun entre Dieu et nous-mêmes. Et il nous faut certainement comprendre que Dieu veut que nous allions plus loin avec lui. Ses œuvres ne peuvent pas se faire comme il le voudrait. Donc il faut que nous comprenions certaines choses, certains mécanismes spirituels dans le fond de notre cœur. Par exemple, une autre question, est-ce que vous êtes satisfait de la relation que vous avez avec Dieu? C'est des questions sérieuses, ce n'est pas des questions pièges. N'imaginez pas qu'il y ait des questions pièges. Si un jour il y a une question piège, reprenez-moi sévèrement, ça ne serait pas quelque chose que Dieu pourrait bénir. Pourquoi tant de chrétiens sont-ils si tièdes? C'est une question qu'on peut poser dans le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très sérieux cette affaire-là. Pourquoi des chrétiens sont tièdes? Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas passés par une véritable conversion? C'est une question qu'on se pose, les pasteurs. Pourquoi tant et tant de chrétiens sont dans l'ignorance, sont si loin des choses spirituelles? Des fois, nous sommes désabusés. Nous discutons avec des gens qui ont 20 ans de conversion, leur piété fait pitié. Vraiment, c'est un jeu de mots. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité d'obtenir davantage de Dieu? Question. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la vie de l'esprit? Ça au niveau collectif, mais surtout, ça dépendra quand même d'un comportement personnel. Est-ce que vous croyez que nous pouvons aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce que vraiment, on peut se dire, mais quand même, oui, les ténèbres s'épaississent, oui, d'accord, oui, oui, on peut voir les choses négatives, mais les choses négatives, en vérité, elles ne sont pas pour nous. Les ténèbres, ça ne nous regarde pas. Nous, nous sommes concernés par la lumière, par la vie de l'esprit, par la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui pourrait faire que les choses pourraient s'améliorer? On voit bien que même dans cette épître, c'est une lettre que Dieu adresse à la Odyssée, il y a quand même la solution. Et Dieu parle des vainqueurs. Ça se termine toujours par ceux qui vont être sérieux et qui entendront. Parce que ça, c'est une autre paire de manches, de pouvoir entendre Dieu nous parler. Comme je le dis, pas les oreilles physiques. Les oreilles physiques, j'espère que vous entendez. Par rapport à votre audition, mais je parle dans le cœur. Dans le cœur, est-ce que vous entendez quelque chose déjà ce matin? La réponse est simple. Par rapport à tout, par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'édification, par rapport au retour des rétrogrades, etc., il n'y a qu'une réponse. Il s'agit de savoir où nous en sommes par rapport à notre faim et notre soif de Dieu. Le psaume 42 l'explique bien. David est en un moment difficile. Si vous lisez la suite, vous verrez, il est là, il ne comprend pas pourquoi son âme est abattue. Il est là, il est soucieux de certaines choses. Mais en vérité, il est en train de réagir, ce qui est excellent et ce qui serait bien si c'était le cas de plusieurs ce matin. Donc David, je le lisais dans la lecture, dans la version Darby, si vous l'avez, il le dit. Je me souvenais de ces choses. Je me souvenais de ces choses quand je répondais mon âme devant Dieu. Quelle expérience je ne faisais pas, quelle victoire je n'obtenais pas. Il est en train d'expliquer ce qui se passait quand il avait faim et soif de Dieu. Mais nous pourrions dire la même chose, c'est pas vrai? Nous avons, dans des moments de piété profonde, de recherche personnelle, nous avons tous la possibilité de dire, oui, quand j'entretenais une vie spirituelle profonde, que n'ai-je pas obtenu comme victoire? Pas vrai? Que n'ai-je pas vu? Combien le Seigneur m'a même parfois étonné. Lorsqu'on maintient cette soif de Dieu, bien sûr, ça nous aide facilement à nous approcher du Seigneur et à vaincre les obstacles. Mais quand même, je me suis laissé interpeller cette semaine moi-même par le Seigneur, pour moi et pour nous. Où en sommes-nous de cette soif? Où en sommes-nous? Vous savez, c'est à chacun de nous de déterminer ce que l'on veut. C'est pas Dieu qui le fera, ça. Ne vous mettez pas dans l'idée que c'est Dieu qui va le faire. La soif de Dieu, c'est quelque chose que nous décidons d'avoir. Nous vivons dans une abondance incroyable. C'est peut-être la crise, il va y avoir peut-être 2 ou 3 mois de récession, mais en Afrique ou dans certains pays, ça les ferait rire. Ça les ferait sourire. Vous êtes d'accord avec moi? Dans certains endroits, ils se taperaient sur le ventre en disant, mais ils sont malades. Ils sont vraiment malades. La crise, elle est ailleurs. Nous vivons dans l'abondance matérielle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sérieux cette affaire. C'est une bénédiction. En même temps, c'est une bénédiction. Le problème, c'est qu'il faut arriver à comprendre les choses. Il y a des enfants qui dans une semaine, ne seront même pas le nombre de jouets qu'ils auront à Noël. C'est pas vrai? Ils n'auront même pas fini de les dépouiller, qu'ils n'auront déjà plus envie d'y jouer. C'est pas vrai? On vit quelque chose d'incroyable. Il y a une accumulation de plaisirs, de distractions, de divertissements, de jeux, etc. C'est incroyable tout ce qui est fait pour distraire les gens. C'est pas pour ça que les gens sont heureux. Ça, vous le savez. Tout est fait, bien sûr, de la part du monde. Le monde a la même mise là-dessus. Mais il n'y a pas que le monde. Je pense que l'ennemi a surtout sa main aussi pour essayer de rassasier l'âme des gens de telle sorte qu'il n'ait pas besoin de Dieu. Vous comprenez, je veux dire? Parce que quand on lit des prophéties, il y a des prophéties qui concernent, c'est vrai, la persécution. Il y aura la persécution. Elle y est, la persécution. Il y a quand même 80 pays persécutés. Il y en a 40 qui sont en situation de persécution réelle. Et des fois, nous, on parle de notre persécution parce qu'on nous embête un petit peu. Bon, enfin, on va pas comparer la persécution dont nous sommes l'objet et la persécution de certains frères et sœurs dans certains pays. Dans certains pays, il y a la persécution. Mais il y a des signes aussi de la fin des temps qui rappellent que, dans les derniers temps, il y aura aussi l'abondance. En Occident, nous vivons là-dedans, vous le savez. Hein, les hommes mangeront, boiront, il y a un tas de prophéties qui ne penseront qu'au plaisir. Et nous ne nous rendons pas compte, parce que nous on est accaparés par nos petits soucis, que nous sommes dans ce cas de figure des prophéties de l'apôtre Paul. Alors cette semaine, je vais vous dire ce qui m'a interpellé en vérité. Cette prédication, elle vient d'un verset que j'ai lu cette semaine dans le livre, dans le psaume 27. On peut le lire. Je me suis arrêté sur ce verset, comme si je ne l'avais jamais lu. Pourtant, vous le savez, les psaumes, on les lit régulièrement. Dans le psaume 27, alors ce n'est pas le psaume, c'est le proverbe, excusez-moi. Proverbe 27. Le proverbe 27, je me suis arrêté sur ce verset. Et j'ai compris ce que je vais vous expliquer en quelques minutes. Regardez bien ce qui est écrit. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Et en lisant ce verset, j'ai compris ce que je suis en train de vous expliquer. Ça veut dire que si notre âme est déjà rassasiée des choses du monde, vous comprenez ? C'est très important. Certains peuvent avoir un déclic par rapport à ce que l'on va voir juste maintenant. Vous avez vu, je le relis, celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Le rayon de miel, par excellence, c'est la nourriture merveilleuse que Dieu nous donne. Mais certains sont déjà rassasiés et n'ont pas besoin de miel. Des bonnes choses de Dieu, pourquoi ? Parce que leur âme est déjà nourri par les choses du monde. Le monde a sa nourriture. Le monde propose énormément de nourriture. Je ne parle pas de la nourriture physique pour l'estomac. Je parle de la nourriture des choses de la vie. Les plaisirs du siècle présent, pour parler vraiment d'une façon biblique. Les délices de la terre. Il y a sur la terre des choses qui peuvent vraiment vous nourrir. Avant notre conversion, nous nourrissions malgré tout notre âme de certaines choses pour nous distraire. Et petit à petit, sans que les chrétiens ne s'en rendent compte, c'est ce qui est arrivé dans l'église de Laodicée, nous avons de moins en moins soif pour les choses spirituelles, nous avons moins besoin de communion avec Dieu. C'est ce que ce verset indique. Celui qui est rassasié, eh bien, il n'a pas besoin de miel. Plus besoin. Pourtant, le miel, quelle douceur, quelle image de la bénédiction de cette communion douce avec le Seigneur Jésus. Et je dois être très sérieux. Si nous voulons avoir cette vie de l'esprit, puisque vous savez qu'on a abordé ce sujet depuis quelque temps, de quoi remplissez-vous votre vie ? Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre. De quoi aimez-vous remplir votre vie ? Qu'est-ce que c'est que vous aimez le plus ? Qu'est-ce que c'est qui vous rassasie tout à l'heure, cet après-midi? Qu'est-ce que c'est qui va vous plaire? De quoi aurez-vous envie de vous distraire, de vous occuper? Qu'est-ce que c'est qui va vous intéresser le plus? C'est ça qui vous nourrit. Il faut être honnête. Vous savez, on est sous le regard de Dieu. Bon, le cinéma, on peut le faire avec les gens. On peut faire du cinéma avec le pasteur. On peut faire la comédie avec plein de gens, même avec sa femme, ses enfants. La comédie, bon, ça c'est facile. Mais avec Dieu, écoutez, il ne faut pas la faire. Il ne faut pas faire la comédie avec Dieu. Enfin, vous pouvez essayer. Ça ne produira pas grand-chose. De quoi remplissez-vous votre vie? Qu'est-ce que c'est que vous aimez par-dessus tout? Vous allez me dire, Dieu. Mais attendez, oui. Mais quand même, on est convaincu. Il y a un chrétien qui me disait il y a quelques jours, mais moi je ne lis pas ma Bible. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai compris pourquoi il ne pouvait pas lire la Bible. Parce que son âme était rassasiée des choses de la terre. Un jeune homme qui va passer 4 ou 5 heures à regarder du sport à la télévision, son âme va être, parce qu'il aime le sport, il va, son Dieu, ça va être Eurosport. Et c'est sérieux ce que je vous dis. Et c'est une affaire sévère. Parce que le problème, c'est qu'après, quand on est rassasié de sport, parce qu'on aime le sport, on va fouler le rayon de miel. C'est exactement ce que Dieu est en train de nous enseigner au travers de ce proverbe de Salomon qui est l'homme qui a reçu le plus de sagesse sur la terre. C'est quand même écrit. Alors il faut que vous puissiez répondre. De quoi remplissez-vous votre vie? Quelles sont les choses qui vous font vraiment plaisir? Et vous devez être capable, là, en 2 secondes, de dire, mais c'est vrai, moi ce qui me fait le plus plaisir, eh bien, c'est ma maison, c'est la presse People. Il y a des gens, ils sont assoiffés de ça, toutes les émissions sur ce qui se passe à Hollywood. Voilà, ça c'est leur nourriture. Ils vont passer des heures à voir toutes les émissions sur ce que ils connaissent les vedettes, plus que le Seigneur Jésus, je peux vous le dire. Ils les ont jamais rencontrés, mais ils les connaissent plus. Ils savent tout, tous deux. Certains jeunes sont capables de vous dire tout sur certains footballeurs, tout. Parce qu'ils se nourrissent de ces choses. Ils étanchent leur âme par les plaisirs du monde. Et je pensais à ce verset quand Jérémie est obligé de dire « Mais mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ça représente bien ce que je suis en train de vous dire. En plus, c'est un double péché dans le cœur de Dieu, parce que c'est la preuve qu'on l'a abandonné. On ne veut pas être rassasié de sa vie divine, de ce miel divin, mais on préfère se... Mais il faut vraiment être malade pour changer les fleuves d'eau vive contre des citernes crevassées, parce que ces choses du monde, elles ne tiennent pas l'eau, ça ne tient pas. Ça ne rassasie pas. Ça ne rassasie. La joie du monde, ça ne rassasie pas. Vous pouvez aller sur des sites où ils font de l'humour pendant des heures, vous n'aurez pas de joie. Vous allez peut-être vous marrer, vous allez rire un bon coup, mais vous n'aurez aucune joie. La vraie joie, c'est cette paix intérieure qui vient de la communion avec le Seigneur. On le sait, écoutez, on ne va pas l'expliquer aux chrétiens. Quand même. Et Dieu le dit, mais comment avez-vous pu en arriver là? Mais parce qu'il cherchait dans le monde quelque chose qui les satisfasse. Et beaucoup parmi nous sont dans cette situation. Alors on peut chanter, on va le chanter je pense tout à l'heure parce qu'on aura le temps, on peut chanter de tout son cœur. Moi je vous écoutais chanter là, je me suis régalé, je vous assure. Mais on peut chanter « J'ai soif de ta présence de tout son cœur », mais je vous avouerai que les actions démontrent parfois le contraire. C'est pas parce que je vais chanter de tout mon cœur, j'ai soif de ta présence. Vous connaissez ce beau cantique. Mais quelles sont vos actions? Est-ce que vous démontrez par les actions que vous avez vraiment soif de Dieu? Parce que ça, c'est quand même sérieux. On ne peut pas continuer à se tromper soi-même. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Je pense que dans cette ville de Toulouse et dans cette assemblée, dans d'autres églises, il y a des chrétiens qui veulent voir des fleuves d'eau vive. C'est la volonté de Dieu, de toute façon, il n'a pas changé d'avis, il dit toujours pareil, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Lorsque Dieu parle à l'église de la Odyssée, il déclare, il dit bien sûr, il lui dit qu'il l'aime, parce que Dieu nous aime, vous le savez. Mais il lui explique qu'elle est tiède. Elle est tiède, donc elle manque de ferveur, elle manque d'enthousiasme, elle manque de passion. Et je crois quand même que Dieu pourrait aussi nous faire ce reproche à plusieurs parmi nous ce matin, que nous manquons de ferveur. C'est vrai, quelqu'un qui est rassasié. Imaginez-vous quelqu'un qui va passer par exemple la soirée, je ne sais pas moi, de 8h30 à minuit et demi à regarder 2 films ou 3 films. Est-ce qu'il va vraiment, après avoir soif, de se tenir dans la prière? Sérieusement, est-ce que c'est possible? Moi je ne le crois pas. Je ne crois pas que ça puisse être possible. Donc, il est certain que lorsque c'est le monde qui nous rassasie, et je dis bien le mot, il est exact. Lorsque ce sont les choses du monde, même si c'est des citernes crevées, il y a un certain temps d'apaisement, de pseudo-apaisement. Et le Seigneur est obligé, après, de nous dire ce qu'il a à nous dire. Et c'est à cette église qui est pourtant bénie. C'est une église bénie. Matériellement, elle est bénie. Dieu lui dit, voilà, tu es tiède et je te vomirai. Le verdict est sévère. Il ne dit pas, tu es tiède, bon, c'est pas trop méchant. Nous, on dit, c'est pas trop méchant. Parce que notre analyse, à nous, elle est très correcte. Et elle nous arrange parfois. Mais là, c'est clair. Dieu dit, si tu es tiède, je te vomirai. Ils sont rassasiés. Ils ne sont pas rassasiés, les chrétiens de l'Odyssée. Qu'est-ce qu'ils disent? Je suis riche. J'ai besoin de... Ils sont rassasiés. Dieu les a... Et Dieu les a bénis. Est-ce que Dieu vous a béni matériellement? N'ayez pas honte. Est-ce que Dieu vous a béni matériellement? Eh bien, gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Si vous avez été béni, eh bien, remerciez Dieu, que ce soit un sujet continuel de reconnaissance. Alors, on pourrait en déduire, donc, quelqu'un, voyez, qui est mystique ou légaliste, « Ah, la richesse, c'est pas bien. Le problème des Laodiciens, ils étaient riches, donc l'argent, c'est un problème. » Le problème n'est pas l'argent. C'est pas un problème. Regardez David, est-ce qu'il était riche, David? Il était riche. Vous avez vu, je suis en train de lire les rois, les chroniques, et je lisais cette semaine tout ce qu'il a donné à Salomon avant sa mort pour la construction du temple. Je peux vous assurer, il avait des sous. Qu'est-ce qu'il a donné? Vous le vérifierez, ne le cherchez pas. Dans 1 Chronique 22, 14, 100 000 talents d'or. Ça commence à peser. 1000 milliers de talents d'argent, 1 million de talents d'argent. Vous regarderez la somme que ça fait, vous verrez que vous pouvez acheter quelques cadeaux à vos petits-enfants. Quant au bronze et au fer, il n'était pas possible de le peser tant il y en avait. Voilà ce que David a fait. C'est impossible de compter tout l'argent et l'or qu'il a donné pour la construction du temple. David a été extrêmement riche. Et pourtant, quand vous lisez cette psaume, vous avez remarqué qu'à certains moments, il exprime sa pauvreté. Vous l'avez vu. « Seigneur, je suis pauvre et indigent. » Indigent, c'est pire que pauvre. Le pauvre, bon, il y a déjà, ils sont pauvres, mais ils ont quand même un petit peu dans le frigo, un petit peu dans la cantine, un petit peu dans les étagères. Ils arrivent quand même à la fin du mois, mais bon, ils sont pauvres. Mais les indigents, ils ont rien. Et David dit, je suis indigent. Alors, est-ce que c'est un hypocrite? Quelqu'un qui passerait devant sa maison, qui aurait entendu David dire, Seigneur, je suis pauvre et indigent. Il aurait dit, mais quel hypocrite! Je l'ai entendu prier. Mais si tu savais comment il prie. Mais c'était vrai. Spirituellement, il dépendait de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Il était riche, béni soit Dieu, si Dieu vous enrichissait, voilà, faites pour le mieux. Mais d'où tenez-vous votre richesse? Cette richesse, cette communion avec Dieu. Éternel, je suis malheureux et pauvre, disait-il. Voyez, il exprime son besoin de Dieu. Dieu l'a béni, il a toujours besoin de Dieu. Les chrétiens de la Odyssée, ils ont été bénis matériellement. Ils se sont regardés et ils ont dit, mais on n'a besoin de rien. On n'a besoin de rien, on a de l'argent. On a les comptes pleins, on a réussi. Oh, merci Seigneur. Mais ils ne dépendaient plus de Dieu. Ils étaient rassasiés à cause des bénédictions matérielles. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Ce n'était pas un péché qu'ils soient bénis matériellement, mais ils ont changé leur centre d'intérêt. Et ils se sont rassasiés de la bénédiction matérielle. C'est pour ça qu'ils sont devenus tièdes. Et Dieu est obligé de les reprendre. Si le Seigneur m'a mis ce message à cœur, c'est que certainement plusieurs nous sommes concernés par cette affaire et que nous en avons besoin. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous reprenne? Est-ce que nous acceptons que le Saint-Esprit nous reprenne? Il le dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. De toute façon, tous les enfants de Dieu, même les plus zélés, ont besoin d'être châtiés, ont besoin d'être repris. Oui ou non? Il y a quelqu'un qui pourrait se dire, ah non, non, moi, ma pasteur, je peux passer entre les mailles, je n'ai plus besoin d'être repris par Dieu, vu mon niveau élevé de spiritualité, je peux même pas dispenser. Bon, venez me voir, on fera le point. Mais vous comprenez, tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, même les plus fervents, d'ailleurs même, je crois que les plus fervents,
ils attendent que ça, d'être repris par le Seigneur, parce qu'ils en ont besoin. Ils savent dans quel état d'esprit Dieu le fait. Ils savent que Dieu est plus intéressé par le spirituel que par le confort matériel. Et ça, c'est important. Dieu, il s'occupe, bien sûr, il bénit matériellement. Mais Dieu veut surtout que nous soyons en bonne santé spirituelle. Et le Seigneur a souvent reproché, je pense souvent à un texte dans Jérémie où Dieu dit, par le prophète, il dit, et à Isaïe aussi, il dit au pasteur, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous leur parlez de paix, vous leur parlez de prospérité, alors qu'ils ont besoin de revenir à moi. Ils ont besoin de revenir à ma parole. Mais qu'est-ce que vous faites? Dieu est en train de reprendre les pasteurs. Alors tant mieux si on a besoin de... Tant mieux s'il y a des messages sur la paix, la prospérité, le bonheur, tout ça. Bon, moi ça ne me gêne pas. Mais si on a besoin d'être repris, il faut être repris. Le Seigneur, il sait exactement ce qu'il nous faut. Et quand Dieu nous reprend, il le sait. Si nos mains sont languissantes, si vous n'avez plus de vie de prière, on pourrait lire un texte qui nous montre ce que je suis en train de vous dire. Dans Ésaïe 35, il y a plein de textes, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas que l'église de la Odyssée qui était concernée par ce problème. Regardez par exemple dans Ésaïe 35. Dans Ésaïe 35, on peut lire à partir, alors c'est où que ça va mal? Oui, il leur dit à partir du verset 3. Bon, vous voyez là, il est en train de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent. Dieu sait comment nous fortifier, comment nous relever. Ésaïe 35, verset 3. Regardez bien. Dieu sait. Fortifiez vos mains, les mains languissantes. C'est repris dans le Nouveau Testament. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Voyez, on voit les gens qui sont troublés, les cœurs troublés, les chrétiens, ils sont troublés, ils ont peur du lendemain. Mais tout ça, ça s'explique. Un chrétien qui a peur du lendemain, il y a une explication. Voyez les genoux qui chancellent, c'est-à-dire il n'y a plus de communion, d'intercession, il n'y a plus de vie de prière. Les genoux, c'est l'image d'un homme qui se tient devant à la brèche et qui intercède. Voyez les mains languissantes, ça veut dire plus de service, je suis fatigué, je ne peux rien faire pour le Seigneur. Voyez, et il reprend. Et vous comprenez bien que Dieu ne va pas vous laisser dans une vie languissante, avec un cœur troublé, avec un cœur malade, avec une vie spirituelle pauvre. Dieu ne va pas vous laisser en disant « bon, ben c'est son problème ». Non, Dieu, il va vous reprendre. Il vous aime et il va vous châtier et il va vous reprendre. Il va vous corriger pour que vous retrouviez ce que vous avez besoin de retrouver. D'ailleurs, regardez les conséquences. Regardez les conséquences de cette affaire. Verset 5. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la multitude. Amen. Dans la solitude. Mes frères et sœurs, si nous ne laissons pas le Seigneur nous corriger, nous n'y arriverons pas. Si le Seigneur nous corrige, c'est qu'il faut, il y a quelque chose. Il faut réagir. Il ne faut pas dire, oui, c'était bien. Oh, quelle belle prédication. Ça ne va pas du tout si ça s'arrête là. Si vraiment vous en êtes à ce stade, où vous avez dit, Seigneur, donne-nous une bonne prédication ce matin, vous n'allez pas bien spirituellement. Ce n'est pas vrai. Vous devez dire, Seigneur, il faut que je sache où j'en suis avec toi. Il faut que tu me reprennes. Moi, je n'ai pas envie d'être ces pasteurs du temps d'Ésaïe qui flattaient les gens, qui les encourageaient alors qu'ils avaient besoin d'être repris, qui les flattaient, qui les consolaient alors qu'ils avaient besoin de demander pardon. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Si vous avez besoin de consolation, ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il saura vous consoler, même si le pasteur, il ne sait pas. Mais si nous n'acceptons pas d'être corrigés quand cela est nécessaire, mes frères et sœurs, nous n'y arriverons pas. Et c'est à nous de le faire. Quand Dieu dit « fortifiez vos mains languissantes », c'est à nous de dire « bon, il faut que je retrouve du service dans l'église ». Fortifier les genoux affaiblis, bon, il faut que je retrouve une vie de prière. Ce n'est pas normal que je prie 5 minutes par jour juste pour mes petits oignons et mes intérêts. Ce n'est pas possible. Si les chrétiens de l'église de la Odyssée se sont fait piéger, nous pouvons nous faire piéger. Et certains, hélas, parmi nous, se sont fait piéger. Rendez compte, le résultat d'être repris et la fin. La fin, regardez. Regardez la fin définitive. Hein ? Les rachetés de l'Éternel, verset 10, retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ça ne vaut pas la peine d'être repris par Dieu ? Ça ne vaut pas la peine d'être sérieux quand le Seigneur dit « mais tu ne vas pas bien ». Tu vois pas, tu es tiède, tu ne sers plus, tu ne me sers plus, ou alors tu le fais machinalement, ou tu ne pries plus, ça va pas. Fortifie-toi. Et quand Dieu dit fortifiez-vous, c'est quand il dit enlevez les pierres, il va pas le faire. Seigneur, enlève les pierres de mon cœur. Mais il ne va pas le faire. C'est une ignorance grave que de demander à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. Quand Dieu a dit à Marthe et à Marie, ôtez la pierre, elles n'ont pas attendu, elles l'ont fait. Il n'y avait que ça qu'il fallait qu'elles fassent. Mais il fallait qu'elles la fassent, qu'elles le fassent. Si nous voulons voir une église bouillante, enthousiaste, fervente, remplie du Saint-Esprit, il faut commencer par le début. Il faut peut-être régler le problème de la tiédeur. En tous les cas, quand Dieu nous reprend, si on est intelligent, on voit derrière qu'il y a des promesses et des bénédictions. Nous, on peut reprendre quelqu'un bêtement. On peut le reprendre pour le reprendre. On ne voit pas le but, l'objectif, l'intérêt, la guérison, etc. Donc ça fait que la personne ne va rien comprendre. Il me reprend, il m'engueule, il me gronde, il me dit ci, il me dit là. Je ne comprends rien. Mais quand Dieu nous reprend, mes frères et sœurs, il y a une guérison derrière. Il y a une véritable bénédiction. Alors le remède dans l'église de Laodicée, c'est quoi? Parce qu'à l'église de Laodicée, il s'adresse à des croyants. Quelqu'un a dit un jour, je l'ai entendu souvent, l'église de Laodicée, l'invitation c'est pour les pécheurs. Je me tiens à la porte et je frappe. Je suis désolé. Le Seigneur est en train de parler à des chrétiens. Il est en train de s'adresser à une église. Il ne parle pas aux inconvertis. Les inconvertis, c'est autre chose. Si vous n'êtes pas encore passé par la croix, c'est autre chose. Mais là, je m'adresse aux chrétiens. Je ne peux pas confondre les choses ce matin. Voilà. Il s'adresse à une église. Et il dit à cette église, si quelqu'un entend. Et laissez-moi vous dire que là, le danger est grave. Si Jésus dit plusieurs fois de suite, si quelqu'un entend, c'est que les gens n'entendent pas. Et ils n'entendent pas parce qu'ils sont rassasiés. Quand vous êtes rassasiés des choses du monde, quand vous avez faim, quand vous avez bien mangé, si on vous présente derrière un beau cassoulet, imaginez, vous avez fait un repas, mais un repas terrible. Ça vous est déjà arrivé de faire un bon et gras repas? Ça vous est déjà arrivé? Un bon repas, etc. Imaginez que derrière, on vous propose, demi-heure après, mais vous n'en pouvez plus. On vous propose, tenez, j'ai préparé un cassoulet. Je me souviens d'une fois, écoutez, on était en train de manger chez quelqu'un, on était invité, et puis en plein milieu du repas, je me rends compte qu'on est invité ailleurs. Alors je dis, bon, écoutez, on va partir, tout ça, manger. Puis on est parti chez les gens chez qui on était invité manger. Alors, on vous a préparé un bon repas et tout. Oh, ça fait plaisir. Mais je vous avoue qu'on n'a pas trop faim. Voyez, quand on est rassasié, on n'a pas faim. Et si Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, il sous-entend que si vous êtes rassasié des choses de la terre, si vous êtes rassasié par les choses du monde, vous n'allez pas entendre. Ça peut vous intéresser le temps de la prédication, parce que votre esprit s'accapare, parce que là, on est sérieux, on est là, on est venu au culte, on dit, bon, c'est important, c'est le culte, c'est la réunion. Bon, quand même, je me tiens à carreau, je fais attention. Mais en vérité, dans 2 heures, vous saurez si vous voulez encore entendre la voix du Seigneur. Ça sera quelque chose qui va vous poursuivre. Je veux entendre ce qu'il a à me dire. Oui, c'était vrai, c'était la prédication, elle était sérieuse. Mais heureusement qu'elle est sérieuse. Mais ce n'est pas ça qu'il faut. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez que Dieu est en train de nous dire à plusieurs, nous sommes attiédis parce que nous nous sommes rassasiés des choses de la terre. Nous avons trouvé plein de choses. Et je le répète, le diable, il a un arsenal de folie pour satisfaire l'âme des chrétiens. Même avec des choses qui sont saines. Avec tout un tas de choses qui sont bonnes. Le diable, il ne va pas nous écœurer qu'avec de l'impur et de l'injustice. Il va nous accaparer avec des choses qui peuvent être saines. Mais à partir du moment où ça nous empêche de nous tenir devant Dieu, il a quand même gagné. Et ça, nous devrions quand même faire attention. Jésus l'a dit, mais ils ont des oreilles. Ils n'entendent pas. Vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Il l'a dit. Pourquoi? Mais c'est facile à comprendre. Ils étaient religieux. Mais quand Jésus leur parlait, ils n'entendaient pas. Ils étaient rassasiés de leur truc à eux. Et vous devez être capable de dire ce matin, mais de quoi je suis rassasié? Je parlais de sport, mais c'est vrai. Il y a des chrétiens, moi j'ai connu un chrétien qui m'a dit, il a fallu qu'il demande de la délivrance à Dieu. Tous les soirs, il enregistrait sur Canal+, il partait et il enregistrait un match de foot. Il fallait que tous les jours, il regarde des matchs de foot. Un chrétien qui servait Dieu. Il s'était devenu une drogue, parce qu'on se nourrit de choses qu'on aime. Oui ou non? Et vous devez être capable de répondre. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On se nourrit de quoi? De ce qu'on aime. Et ça nous rassasie. Et quand notre âme est pleine, eh bien, on n'a plus besoin de miel. Et on n'en veut pas. Et on, parce qu'on ne peut pas. Et voilà ce qui se passe. Vous, si quelqu'un entend, si quelqu'un entendait la voix de Dieu ce matin, il comprendrait que si vous laissez entrer Jésus tout à nouveau dans votre vie, dans le temple de votre vie, vous vérifierez qu'il n'y a pas meilleur que le pain de vie. Jésus est-il le pain de vie? Jésus est-il celui qui vous nourrit quotidiennement? Est-ce que vous pouvez dire, oui, il me nourrit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, ma coupe déborde. Peut-être que la coupe déborde, mais pas de choses de Dieu. Et ça, c'est grave. Mes frères, il y a des gens qui aiment le jeu, il y a des chrétiens, ça y est, ils sont fait piéger par jouer en ligne, etc. Ils sont là tous les jours. Ils jouent au poker en ligne. Parce qu'ils aiment ça. Et ils sont rassasiés par ça. Et le gars qui a fait 3 heures de poker sur Internet, je pense qu'il n'a pas beaucoup envie de se recueillir dans la présence de Dieu. Et tout ça, c'est grave. Parce que le diable, il trimballe les chrétiens comme de véritables marionnettes. Et ça ne fait pas l'affaire de Dieu. Vous savez, on ne devient pas rétrograde parce qu'on trompe sa femme, parce qu'on tombe dans l'alcoolisme ou dans la pornographie. Là, il y a longtemps qu'on l'y est. On devient rétrograde quand on est insensible et indifférent à la parole de Dieu. Voilà quand est-ce qu'on commence à devenir rétrograde. Nous sommes rétrogrades quand nous sommes plus enflammés par les choses du monde que par les choses de Dieu. Et c'est une question vraiment d'honnêteté. Par quoi êtes-vous enflammé? Qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est la musique, je ne sais pas. Il y a tellement d'artifices. Alors qu'il y a certaines choses saines. Vous voyez, l'argent qu'avaient les Laodicéens, c'était pas un problème au départ. C'était une bénédiction. Et voyez, même n'importe quoi, un service peut prendre la place de Dieu. Pour un pasteur, la prédication peut remplacer la communion avec Dieu. Pour le plaisir qu'il y a de préparer un sermon. Mais il ne faut pas que moi je me fasse piéger par ça également. Je dois d'abord privilégier ma communion avec Dieu. Nous sommes rétrogrades de toute façon quand nous sommes tièdes. Vous êtes d'accord? Quand Jésus dit à l'église à côté, il lui dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est exactement la même chose. Et il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est bien une chute. Quelqu'un qui aime Dieu en second, quelqu'un dans la vie duquel Dieu n'est pas en premier, il est tombé. Et vous devez pouvoir répondre devant Dieu, parce que à lui-même, moi, ça, si vous voulez faire le point, on pourra le faire. Mais vous devez pouvoir dire, mais qu'est-ce que c'est que j'aime en premier? Est-ce que c'est vraiment ma communion avec Dieu qui est prioritaire? Je ne parle pas du service. Qu'est-ce que c'est ma communion avec Dieu qui est prioritaire? Parce que justement, dans chaque église, presque, il dit, je connais tes œuvres. Mais il fait bien la différence entre les œuvres et la communion. Croyez-moi. Alors, quand on est tiède, quand Dieu n'est pas en premier, si pour vous le culte personnel, parce que ça, moi, ça m'afflige, je pèse mes mots, ça m'afflige de voir que de plus en plus de chrétiens me disent, mais sans problème, qu'ils ne font pas leur culte personnel. Moi, ça m'inquiète, parce que c'est la preuve que quelque chose ne va pas. C'est vraiment quelque chose. Vous savez, ces jeunes filles qui attendaient le retour du Seigneur, elles l'attendaient. Elles représentent l'église de la fin des temps, puisque c'est dans les prophéties sur l'enlèvement. Elles représentent les chrétiens de la fin des temps qui ont estimé qu'elles savaient la réserve d'huile dont elles avaient besoin. Elles se sont dit, moi j'ai besoin de ça. Peut-être que par exemple, vous vous dites, moi j'ai besoin du culte du dimanche matin, la prédication du dimanche, ça me suffit pour aller au dimanche d'après. Ça peut s'expliquer. Les vierges folles ont été taxées de folles parce qu'elles ont fait ce calcul. Elles n'ont pas été taxées de folles par un voisin, elles ont été taxées de folles par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a prononcé le verdict, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » C'était des jeunes filles qui représentent l'Église, la fiancée, et qui attendaient le retour du Maître. Elles ont estimé que la quantité de piété qui était contenue dans leur esprit, était suffisante. Et il y a des chrétiens qui s'imaginent, moi, je vais à l'église, je donne ma dîme, je fais ça, ça, que combien ne pas m'embêter. Est-ce que vous avez une véritable communion avec Dieu? Voilà ce que le Seigneur attend. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Moi, c'est ça qu'on veut dans l'église, que Jésus y est. C'est clair que ça serait antibiblique si je disais, le Seigneur, il n'est pas. Mais le Seigneur, il est là, mais il ne faut pas qu'il soit là. il faut qu'il soit là et qu'il agisse. Et que rien ne l'empêche d'agir. Parce que même si Dieu est là, bien sûr, il est partout. Mais je veux dire, il est peut-être surtout à la porte. Et moi, je serais affligé que le Seigneur me dise, voilà, je suis à la porte et je frappe. Et je voudrais rentrer, mais je ne peux pas. Parce que vous n'entendez pas, parce que les choses du monde vous accaparent. Et frères et sœurs, c'est une affaire très sérieuse. Il y a des frères et sœurs qui pleurent chaque semaine parce qu'ils veulent voir la gloire de Dieu. Et il faut que nous appliquions, c'est quelque chose de sérieux. Et si on n'a pas la soif, il faut dire, Seigneur, mais je ne sais pas, bon, quand David a été repris par rapport à Nathan, par rapport à Bathsheba, par Nathan, il a réagi de suite et il a prié. Il a dit, oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit. On a parlé d'un esprit l'autre jour en bonne santé. Un esprit brisé, un esprit contrit. C'est quelqu'un qui devant le péché, oh, il est malheureux. Oui, j'ai péché. Il y a des gens, ils pêchent toujours, des chrétiens, je parle. Mais ça les afflige pas du tout. Oh, écoutez, tout le monde fait pareil, il n'y a pas que moi. Voilà, ça c'est un signe de d'éloignement de Dieu, pas possible. Un chrétien, dès qu'il a péché, il devrait être brisé. Et David, il dit, oh, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Vous voyez, il est là et Dieu va le relever. Il va perdre beaucoup. Hein. Ça va aller très très mal dans sa famille dans les années qui vont suivre. Il va le payer cher. Il va le payer cher. Mais Dieu va le relever. Et il n'en perdra pas la communion avec Dieu. Et c'est ça, quand Jésus dit à cette église, repens-toi, et du zèle, et repens-toi, la repentance, c'est pas dire, ouais, c'est vrai ce qu'il dit quand même, tiens, c'est pas mal, il n'avait jamais parlé ça sur ça, c'est bien, je regrette ma tiédeur. C'est pas ça que Dieu vous demande. Dieu vous demande pas de regretter. Dieu nous demande de nous repentir si c'est nécessaire. C'est dire, Seigneur, voilà, je suis confus, je suis rassasié des choses de la terre. Ça nécessite une repentance. Vous ne devez pas dire, ouais, c'est intéressant le sujet. Non. Il y a des gens, ils s'imaginent que parce qu'ils regrettent, ils se repentent. Jésus n'a pas dit regretter. Il a dit repentez-vous. Et si nous ne sommes pas disposés à avoir une véritable communion, les choses ne changeront pas. Même si on supplie jusqu'au millénium, ça ne changera rien. Est-ce que nous voulons retrouver cette soif de Dieu ? Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Dans l'Ancien Testament, je le lisais ce matin, mais faites-moi confiance. Vous pourrez le vérifier. Dans 2 Rois, chapitre 17, versets 28 à 34. Lisez ça demain matin. Et il est écrit qu'ils aimaient Dieu, mais ils aimaient les Baals et les Astartés. Ils craignaient Dieu. Enfin, quand on voit la suite, ce n'était pas tout à fait la vraie crainte. Ils craignaient Dieu, mais ils créaient les idoles. Ils craignaient les idoles en même temps. Voyez ? Et ça a été une catastrophe. Ils aimaient Dieu, mais en même temps, ils aimaient le monde. Le résultat, ça a été catastrophique. Vous le lirez, ce sont des textes, on ne les lit pas souvent, et à tort. Mais beaucoup de chrétiens sont là. Ils aiment Dieu, et ils aiment le monde. Ils aiment Dieu, mais ils aiment encore plus le monde. Et c'est ce qui s'est passé, ça a basculé à l'Odyssée, cette église que Dieu avait bénie. Moi, je voudrais que Dieu nous bénisse matériellement. Est-ce que vous voulez que Dieu nous bénisse matériellement ? Si c'est pour donner davantage, si à la place d'envoyer, je ne sais pas moi, on va envoyer des tonnes de mille, admettons, à la place d'en envoyer 10 tonnes, si on envoie 20 tonnes, est-ce que c'est mieux ? Bien sûr. Alors est-ce que vous êtes d'accord que Dieu nous enrichisse matériellement ? Mais à quoi ça nous servirait si ça devenait un piège ? Il ne faut pas que la bénédiction matérielle soit un piège. Vous avez des dons, des talents, des capacités, de l'énergie, du caractère, de la personnalité, tout ce que... Il ne faut pas que tout ça soit en premier. Seigneur, je ne veux pas attrister ton esprit. Je ne veux pas éteindre ton esprit. Les vierges folles, elles ont fait un mauvais calcul. Elles n'étaient pas si folles que ça au début. Elles le sont devenues parce qu'elles ont pensé que la réserve d'huile qu'elles avaient suffisait. Mais les temps qui viennent, mes frères et sœurs, les temps qui viennent font que il vaudrait mieux s'appliquer à ce que faire en sorte que la lampe soit pleine. Et quand on a un moment de communion avec Dieu, quand on lit la parole, non pas pour la lire, quand on prie, mais qu'on ne prie pas pour prier, mais pour vraiment chercher la communion avec Dieu, notre lampe, ça ne se voit pas, ça se fait dans le secret, ça se fait dans votre culte personnel. Le matin, quand vous passez votre petite heure devant Dieu, eh bien, sans que vous vous en rendiez compte, l'huile monte et c'est comme ça que nous verrons la coupe déborder et que nous verrons le réveil sur Toulouse. Voilà. Mes frères et sœurs, on va chanter ce cantique. J'ai soif de ta présence et je voudrais qu'on le chante vraiment, vraiment, avec beaucoup de cœur. Je voudrais que vous réécoutiez cette prédication, pas parce que c'est moi qui ai prêché, mais parce que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Certains, vous n'entendez pas. Vous entendez un pasteur prêcher, vous avez entendu dans votre tête, vous entendez dans votre mentalité, dans votre conception, vous êtes capable d'analyser la prédication. Il y aurait un théologien parmi nous, il serait capable de dire, voilà, monsieur Gou, il aurait pu ajouter ceci, il aurait pu ajouter cela, il aurait pu construire la prédication, mais on n'en a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de répondre. De quoi je me nourris? Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux découvrir? Que cette fin d'année soit l'occasion de retrouver cette soif de Dieu. Celui qui a soif, des fleuves d'eau vive couleront. C'est une promesse extraordinaire. Alors ne chantons pas ce cantique et que nos actions tout à l'heure ou ce soir démontrent l'inverse. Ça serait rajouter un péché de plus et attrister le Saint-Esprit, mais que nous puissions vraiment chanter ce cantique en disant, Seigneur, c'est la victoire que je prends ce matin. Je prends cette victoire. Je vous le dis, vous savez, j'ai envie de pleurer. Tellement je ressens dans mon esprit la pression de Dieu. Je me retiens parce qu'on n'est pas là pour verser des larmes. Mais je vous le dis franchement, mes frères et sœurs, certains d'entre vous, vous êtes en danger. Vraiment en danger. Si Jésus revenait ce matin, vous resteriez collés sur votre chaise, dans les pleurs et les grincements de dents. Et je ne veux pas que Jésus un jour me dise, Gérard, tu as fait comme les pasteurs du temps d'Ésaïe, tu les as caressés dans le sens du poil, ça ne me plaît pas. Non, si on a besoin d'être repris, il y aura une joie éternelle derrière. Il y aura des couronnes éternelles, il y aura des sourds qui entendront, il y aura des aveugles qui verront. Si nous sommes sérieux, nous verrons l'approbation de Dieu dans l'assemblée. Vous la voulez l'approbation de Dieu? Alors soyez sérieux, soyons sérieux. Et moi le premier, que nous soyons assoiffés de Dieu, pas assoiffés de bénédiction. Assoiffés de lui. Ça change tout. Hein. Assoiffés de sa présence. J'ai soif de ta présence. Vous ferez le cantique s'il vous plaît, je ne l'ai pas. Ouais.